Merci Yannick, merci à Entrevue pour son indéfectible hospitalité. Nous sommes donc en compagnie de Pierre Vinclair, qui a été l'artisan, le maître d'œuvre de ce numéro à double entrée, numéro de mai, donc William Carlos Williams et Yves Dimano. Et puis Yves, qui je dirais est dans chacune des deux entrées, puisque c'est l'un des traducteurs de William Carlos Williams et d'autres poètes américains en français. Donc il était bien évident qu'il participe à ce cahier Williams. Mais je crois que je vais passer la parole à Pierre Vinclair, non sans dire que je suis très heureux d'avoir accompagné, de lui avoir confié les rênes de ce numéro, d'avoir accompagné le travail. Pierre, avec toutes les qualités que vous lui connaissez, j'en ajouterai une, c'est que c'est un homme avec qui il est extrêmement agréable de travailler. On travaille vraiment en bonne entente et c'est vraiment un grand plaisir. Alors, il n'y avait pas d'actualité particulière pour réaliser ce numéro, même si la coïncidence des parutions a fait qu'il y avait une petite actualité, dans le sens où, tandis que ce numéro était déjà largement dans les tuyaux, une traduction de poèmes de William Carlos Williams par Jacques de Marc, qui est ici, est parue chez Segers. Donc, bon, c'est une petite chose, mais il faut quand même la remarquer. Donc, je dirais que sur William Carlos Williams, il n'y avait pas d'actualité spéciale à laquelle répondre. En revanche, quand on en a parlé avec Pierre, on a ressenti ça comme une nécessité. Alors, Pierre, la première chose que je voudrais vous demander, c'est dans ce qui vous a motivé, vous, qu'est-ce que vous retiendrez principalement dans l'impulsion première de ce travail et dans l'idée aussi d'y adjoindre un cahier sur Yves Dimano.
Alors, moi, il me semblait que Yves Dimano, mais je voulais dire William Carlos Williams, lapsus intéressant, que William Carlos Williams, en fait, était devenu un peu une sorte de classique pour nous aussi, c'est-à-dire pas seulement pour les Américains, mais aussi pour les Français. Peut-être en tout cas, ça a été accéléré par le film sur Patterson, qui n'est que indirectement lié à l'œuvre de William Carlos Williams. Mais à l'occasion de la parution du film de Jarmusch, il y a eu une réédition, je crois, de Patterson en français, ouais. Qui est devenu un best-seller. Il y a eu quelques années après Le printemps et le reste, qui a été aussi réimprimé dans la traduction de Valérie Rousseau. Je crois que la première édition datait de 2000. Et donc il y a eu comme ça une espèce de un public qui ne connaissait pas, un public qui n'était pas simplement un public de spécialistes ou de poètes intéressés par regarder ce que font les collègues, un public de lecteurs, disons, a commencé à s'intéresser plus à William Carlos Williams. Alors même que d'un autre côté, la production critique, alors il y avait une production critique universitaire, je pense notamment au travail d'Hélène Agy, mais de production critique plus grand public, comme le fait la revue Europe, il me semblait que le terrain était encore assez vierge en France. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu voir ce qu'on pouvait proposer à un public qui commençait à s'y intéresser, sans avoir de ressources comme ça critiques pour pouvoir appréhender ce travail qui est en fait assez complexe. En tout cas qui est riche, qui s'est développé sur plusieurs décennies, dans des styles différents, dans des formes différentes. Alors c'est vrai qu'ici, dans ce cahier-là, on aborde exclusivement sa poésie, alors qu'il y a aussi une production romanesque chez William Carlos Williams, mais qui n'est plus, et pour le coup, qui n'est plus édité en français, même si ça a été traduit par le passé. Et donc voilà, c'était une volonté comme ça de donner des instruments critiques au public qui s'y intéresse, au nouveau public qui s'y intéresse, et aussi à titre plus personnel, privé et même égoïste, moi, d'avoir des instruments critiques en tant que lecteur, parce que comme il n'y a pas énormément de production critique autour de cette œuvre-là en français. Ça m'intéressait beaucoup de regrouper un certain nombre de spécialistes et aussi de poètes et de croiser comme ça des perspectives différentes sur cette œuvre riche. Et si j'y ai adjoint le cahier sur Yves, ce qui m'a semblé tout à fait naturel, c'est Yves déjà a été un traducteur du livre, un des livres principaux en tout cas de William Carlos Williams Patterson, mais aussi à travers sa production critique dans sa trilogie End Quote, Objet d'Amérique et Terniciel, un introducteur de la poésie américaine en général, de la poésie objectiviste, on pourrait dire en particulier, et singulièrement de William Carlos Williams, qui, moi, à titre personnel, a été la manière dont j'ai découvert cette œuvre-là. Donc, ça me semblait vraiment tout à fait naturel de faire dialoguer ces deux œuvres.
Alors, dans la manière dont vous avez conçu, élaboré, par le pour le moment, le cahier William Carlos Williams. Je dirais qu'avec une revue, on fait toujours aussi avec les moyens du bord. Hein. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'on a différents types d'approches. On peut dire qu'il y a des textes qui portent aussi un éclairage, je dirais, poético-historique. Sur cette poésie, son développement, son contexte de production, si je puis dire. Et puis, on a aussi des témoignages. Par exemple, on a un témoignage que vous êtes allé dénicher, qui date du début des années 60, de Robert Lowell, qui a gardé une sorte de fraîcheur, de capacité à nous intéresser et même à nous émouvoir, parce que c'est un texte aussi qui est de l'ordre du très sensible dans la perception de Williams. Il y a des textes qui sont focalisés sur tel ou tel aspect de sa poésie. Vous avez trouvé quelqu'un de très brillant qui a déniché des inédits de William Carlos Williams, donc qu'il était possible de donner en édition bilingue, puisque même aux États-Unis, c'est des textes qui se trouvent très difficilement, sauf à aller dans des bibliothèques assez pointues, et qui commentent aussi ces inédits. On a trouvé aussi un texte que je trouve particulièrement intéressant. En fait, ça serait sur Williams, poète citoyen. Un Williams, comme le dit quelqu'un, plus rouge que rose. Et ça, c'était un aspect que je connaissais personnellement très, très mal. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi un apport vraiment important dans le numéro et que toutes ces approches, aussi diverses soient-elles, se complétaient assez bien et donnaient, je dirais, une épaisseur, une présence à la fois, je dirais, à Williams lui-même, mais et puis indissociablement, évidemment, à son œuvre. Je ne sais pas comment vous avez... Parce qu'il y a quelque chose de toujours particulier avec les revues, c'est que quand on est dans la construction, dans la fabrique, on fait des choix, on a des préférences, on prend des décisions, et ainsi de suite. Mais je dirais qu'on n'a pas immédiatement la vue d'ensemble, parce qu'en fait, on a une vue... par segment, quoi. Et puis on les agence, on construit avec ces... Et c'est une fois qu'il est paru qu'on peut avoir une sorte de recul. Et j'ai envie de vous demander à tous les deux comment vous avez lu après coup l'ensemble. Qu'est-ce qui s'en dégage d'après vous? Tu veux prendre la parole?
Ah ben moi, je sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend là, ça va. Bon, j'espère qu'on m'entend. J'ai pas du tout participé au dossier Williams, sinon pour l'idée très belle que Pierre avait eue de s'adresser à tous ses traducteurs.
Enfin, quelques-uns, mais il y en a
qui n'ont pas non plus répondu, je crois. Enfin, oui. Après, enfin, en tout cas, l'idée était de donner aussi cet éclairage-là à la fin. Moi, je suis très mal placé parce que c'est une œuvre, évidemment, que je connais depuis très longtemps. J'étais intéressé par l'apport de ces textes critiques américains relativement récents, enfin des années récentes, que là, par contre, je ne connaissais pas parce que j'ai cessé d'examiner les choses de façon aussi pointue qu'à une certaine époque où la poésie américaine était, je dirais, au centre de mes, de préoccupation, ce qui n'est plus le cas de manière aussi importante depuis déjà assez longtemps. Obligatoirement, c'est un éclairage qui m'intrigue. Je serais assez curieux de voir justement comment les gens réagissent à ça, que ce soit des gens qui connaissent cette œuvre au moins en partie, ou ceux qui vont la découvrir ou commencer de la découvrir à travers ça.
On essaie toujours de s'adresser aux
bien
deux,
sûr,
d'ailleurs. Voilà.
Bien sûr. Il m'a semblé que l'approche assez multifocale, etc., était intéressante parce qu'on avait des éclairages différents. Bon, tu as parlé de ce texte, effectivement, sur sinon l'extrémisme, ça serait un peu exagéré de parler de l'extrémisme politique de Williams, même dans le contexte américain. Mais c'est vrai que Williams était quand même quelqu'un de très, très ancré à gauche. Enfin, il n'était peut-être pas aussi radical que l'auteur de...
Cyrano Rourke.
Oui, l'indique. Mais c'est vrai qu'il est, il a été... En particulier dans l'entre-deux-guerres, il a été très très lié au mouvement de gauche américain, sans être marxiste, disons. Il n'était pas du tout au Parti communiste américain comme beaucoup d'autres poètes de sa génération à ce moment-là. Enfin, il était, en tout cas par rapport à son vieux copain, il n'était pas du tout de ce bord-là, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est des positions nouvelles, y compris aux États-Unis. Moi, c'est vrai que Williams m'a beaucoup plus intéressé dès le départ sous l'angle strictement prosodique, c'est-à-dire à cause de la révolution d'écriture en poésie dont il est en tout cas l'un des principaux initiateurs et l'un des principaux artisans aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle, disons, et que moi, c'était ça qui m'a tout de suite capté, happé, et que, bon, c'est peut-être moins mis en avant sous cet angle-là dans le numéro, mais en même temps, peut-être que ce travail-là a déjà été en grande partie fait. Donc, je sais pas. Comment tu vois ça, toi ?
Alors c'est vrai que c'est un numéro qui est assez kaléidoscopique, enfin, c'est un portrait cubiste un peu de William Carlos Williams, et avec des perspectives qui se contredisent en partie d'ailleurs. C'est ça aussi qui fait la richesse du numéro, je pense, parce que par exemple, il y a cet article de Cyrano Rourke qui met l'accent sur la dimension très politique, mais il y a d'autres articles, au contraire, qui mettent plutôt en valeur son rapport au modernisme et donc un peu d'art pour l'art, en tout cas de clôture de l'œuvre sur elle-même et dans une conception un peu plus habituelle qu'on a de cette œuvre-là. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire varier la manière dont les contributeurs parlent plus ou moins en première personne. C'est-à-dire que les traducteurs, par exemple, vont vraiment rendre compte des difficultés qu'ils ont rencontrées, vont parler en première personne. Il y a des articles beaucoup plus universitaires qui, au contraire, prennent des distances. Et il y a un petit peu tous les intermédiaires entre ces différentes manières. Donc il y a à la fois des perspectives différentes, mais aussi des méthodes d'approche différentes qui font que... Alors effectivement, comme vous l'avez dit, ça s'est construit aussi un peu au fur et à mesure. Par exemple, on s'est rendu compte... presque à la fin, qu'il y avait beaucoup de textes sur Spring and All, sur Le printemps et le reste, et en fait assez peu sur Patterson. Et du coup, c'est vous, Jean-Baptiste, qui avez eu l'idée. Moi, j'avais proposé de traduire un article de Erin Templeton, qui est une spécialiste de William Carlos Williams, qui avait fait un article sur Patterson dans le Cambridge Companion à William Carlos Williams, et vous m'avez proposé de faire un entretien, et en fait c'était beaucoup mieux parce qu'on a pu vraiment lier les propositions de Erin Templeton à ce qu'on avait déjà fait dans la revue, et donc comme ça se recoupait pas, et on venait vraiment combler le manque avec les dimensions dont on avait besoin.
C'est moi le texte que j'ai trouvé le plus intéressant du numéro. Enfin, cette conversation, ce dialogue que tu as eu avec elle, bon, c'est parce que je regrette pas du tout qu'on ait mis l'accent sur Spring and All. Au contraire, parce que moi, c'est mon livre préféré de Williams depuis toujours. Si je dis souvent que si je devais garder un seul livre de Williams, ce serait celui-là et pas Patterson, par exemple. Et puis Patterson a peut-être moins besoin aujourd'hui en France, en tout cas, de gloses ou de commentaires. Alors que Spring and All, bien qu'il soit effectivement traduit depuis 25 ans maintenant par Valérie Rousseau chez Une, qui a été réédité il y a pas très très longtemps. Pour moi, c'est le livre central de Williams. Enfin, c'est le livre dans lequel on, pour la première fois, il a déjà bien la quarantaine à ce moment-là, où il met vraiment, où il trouve ce qu'il est en train de chercher depuis déjà 10 ans. Et puis il y a ce mélange, ce va-et-vient entre la prose et les vers, les poèmes qui dans l'édition originale ne sont pas titrés, et qui sont donc des poèmes qui se succèdent comme ça. J'ai souvent dit, parce que ça c'est une de mes obsessions, un peu maladive peut-être, vraiment, que pour moi il y avait un axe Williams-Reverdy, ou Reverdy-Williams comme on voudra, c'est-à-dire que l'un et l'autre, pas tout à fait la même année mais dans des années relativement voisines, opèrent une révolution prosodique, poétique comme on voudra, pas exactement du même ordre, mais de même nature. C'est-à-dire que le résultat n'est pas le même, parce qu'ils partent dans des langues et des traditions différentes, mais ils sont les premiers, Reverdy évidemment, surtout dans les poèmes rassemblés après dans la plupart du temps, et Williams dans ses textes du début, avec Spring and All comme ouvrage phare, si je puis dire, de cela, ils sont les premiers à travailler véritablement après l'abandon de la métrique ancienne, c'est-à-dire ils trouvent, chacun dans leur langue, quelque chose qui n'existait pas avant et qui répond à l'abandon de cette métrique ancienne. Voilà.
Si je peux réagir sur ce que tu disais sur le fait que cette dimension prosodique n'était pas tout à fait aussi présente que tu l'aurais imaginé dans le numéro. Il y a quand même la lettre à Cable de 1932, qui est quand même une superbe lettre
remarquable,
traduite par Hawksmeary. Et puis, il y a un article qu'on n'a pas pu intégrer parce qu'il était trop long, mais qui est passionnant et que du coup, j'ai fait paraître dans la revue Catastrophe. J'ai mis le lien dans l'introduction, donc on peut le trouver en ligne, qui est précisément une espèce de discussion sur qu'est-ce que c'est que ce variable foot que Williams a essayé de mettre en place à partir du livre 2 de Patterson. Et là, c'est un très long article qui fait 50 000 signes, qu'on peut trouver en ligne, en quelque sorte, en complément de de ce que propose
Mais la lettre à Cable, je l'avais lue parce qu'elle est dans les Selected
Essays.
Elle est dans les Essays.
Et donc, comme j'avais lu les Selected Essays il y a bien longtemps, pas mal de décennies, je l'ai donc lu à l'époque, mais j'en avais plus un souvenir comme ça très, très net. Et je l'ai complètement redécouverte dans ce numéro. C'est un texte absolument remarquable. Et effectivement, écrit en plus à chaud au moment où Williams
c'est... C'est de 32, je crois.
Le début des années 30, c'est-à-dire au moment où il est le plus dans l'activité inventive, je dirais, qui a été la sienne. L'histoire du pied variable, alors ça, c'était un peu sa lubie sur la fin de sa vie. J'avoue que j'ai jamais compris.
Je trouve mais la quête est intéressante. Résultat n'est pas forcément...
On voit bien, mais il était, à mon avis, beaucoup plus inventif et d'une manière plurielle, si je dirais, dans les solutions qu'il a trouvées dans les années 20 et 30 que dans les années 50, qui est le moment où il systématise son histoire de pied variable, c'est-à-dire avec ses écritures un peu en escalier
qu'on trouve dans Asphodel, par exemple.
Voilà, qu'on trouve déjà un peu en travail dans Patterson et dans d'autres poèmes, d'ailleurs, des années 40, mais qui systématise après. Et dans les dernières interviews qu'il fait à la fin de sa vie, il donne l'impression qu'il a trouvé...
Le Graal.
qu'il a enfin trouvé le Graal, etc. C'est la révélation. Je trouve que c'est un peu exagéré.
Alors, il y a aussi, outre cette superbe lettre à Kay Boyle, il y a quelques traductions fraîches, nouvelles, au fil de certains textes, notamment le vôtre, Pierre.
Oui, alors peut-être je la lis ou j'en parle ou...
Vous pouvez en parler, oui, de cette traduction.
Je peux en parler déjà. En fait, c'est une traduction donc, de The Semblables, qui est un poème qu'on trouve dans The Wage, qui est un recueil de 44, et qui est un recueil qu'on connaît surtout pour sa préface, parce que c'est dans cette préface, William Carlos Williams définit le poème comme une machine, et donc ça fait un scandale... Ce serait bien qu'il y ait des scandales comme ça aujourd'hui, qu'on dit quelque chose sur le poème et traînée de poudre.
On peut rêver.
Peut-être à l'issue de cette soirée, on fera les gros titres. Et donc, c'est un recueil qui est surtout connu pour cette préface, mais donc qui est quand même très intéressant. Et j'étais tombé sur ce poème, The Semblables, justement à cause du texte de Robert Lowell que j'ai traduit. Parce que dans le texte de Robert Lowell, il a une... c'est surtout, il raconte. Donc Robert Lowell, c'est un poète de la génération d'après Williams, qui est considéré comme l'inspirateur de la poésie confessionnelle, c'est-à-dire un petit peu le maître de Sylvia Plath et Anne Sexton, qui en tout cas animait un atelier d'écriture à Boston dans lequel Sylvia Plath et Anne Sexton l'ont rencontré, atelier auquel elles ont assisté. Et donc, en tout cas, Anne Sexton dit que c'est dans cet atelier-là qu'elle a rencontré Sylvia Plath et qu'elle a rencontré sa propre poésie. Et donc Robert Lowell raconte le rapport qu'il a à Williams, notamment quand il était à l'université, comme quoi c'était une figure et que ça clivait, il y avait les pour, les contre, etc. Et que sa manière de définir les lignes n'était pas forcément celle qu'on pourrait attendre. Et il a aussi des propos sur la poésie de William Carlos Williams. Et il dit notamment quelque chose que j'ai trouvé étonnant et qui a été l'impulsion de mon article. Il dit que si on lit William Carlos Williams, on a l'impression que ses vers sont assez simples et limpides et qu'on descend de l'un à l'autre sans rencontrer tellement de problèmes. Et que si on enlève les coupes et qu'on remet le texte en prose, exactement le même texte, on trouvera une prose qui syntaxiquement est aussi compliquée que du Faulkner. Et je me disais, tiens, quel étrange tour de magie d'être capable de transformer quelque chose qui, si on enlève l'artifice prosodique en quelque sorte, est extrêmement compliqué, et est extrêmement simple, pardon, et extrêmement compliqué sinon. Et donc j'ai voulu me confronter à cette proposition de Lowell pour en tirer des considérations sur le vers et la prose et leur rapport, et notamment tels qu'ils sont définis dans, ou en tout cas tels qu'ils sont proposés dans Spring and All. Et donc j'ai traduit ce poème qui s'appelle The Semblables, qui compare un monastère et une usine de munitions. Voilà. Est-ce que je le lis ? Ouais. Je le lis en français parce que mon accent anglais laisse à désirer. Les semblables. Le monastère de briques rouges en banlieue, tout contre l'arpent couvert de poussière de l'usine de munitions inachevées, est presque souterraine. Ces hauts murs de briques, derrière lesquels à Pâques, petits orphelins et bâtards en toges blanches chantent leur répons latin au rituel chenu, pendant qu'encens et myrrhe parfont la chapelle sombre en la transformant en une sphère close, au sein de laquelle ils font le vert. Cette cellule hors de la ville jouxtant placidement les ruisseaux et monceaux de déchets pollués et le champ de pierre renversée avec une photo sous verre fixée ça et là sur l'une d'elles près du nom gravé profond pour la distinguer. Cette trinité de pignons en ardoise, les fenêtres sans fioritures s'empilant, la chapelle avec sa fenêtre ronde entre les dortoirs surmontée par le beffroi de bronze, surmontée à son tour par la croix vert de gris, fait face toute silencieuse à ce miracle qui frigide a éclaté entre les rangées de carottes. Des bouleaux blancs sans feuilles, aux vrilles nues se balançant dans la brise presque inexistante, protègent, derrière la clôture à pointe du monastère, la statuaire sacrée. Mais des rangées successives de toits de voûtures brillants rendent dans toute sa splendeur le soleil de fin novembre et assistent, en silence, devant ce sol écroulé, ces murs aveugles et ces entrées pelletées où personne, sauf un flic solitaire brandissant sa matraque, ne donne signe, à cette agonie dans laquelle les machines enveloppées sont en train de prier.
Merci. Alors, Yves, tu reviens dans la partie Williams, parmi les témoignages de quelques-uns des traducteurs de Williams. Tu évoques ce travail qui remonte déjà à quelques années.
Oui.
Mais c'est surtout que disons qu'il y avait eu une première traduction que tu avais faite et puis une traduction revue.
Oui, c'est-à-dire que j'ai traduit, je le dis très honnêtement dans le texte que j'ai donné à Pierre pour ce numéro, je voulais absolument lire Patterson. J'étais à Grenoble, c'était à la fin des années 70, j'avais 23, 24 ans, quelque chose comme ça, et c'était absolument impossible de se procurer des livres étrangers, enfin c'était pas impossible, mais c'était très difficile. Et j'avais lu outre quelques... J'avais lu Pound parce qu'il était déjà traduit, puis j'avais lu un peu des textes dans des revues, et puis j'avais lu, avec un peu de retard, mais vu mon âge, c'est excusable, le livre de Fauchereau, lecteur de la poésie américaine, et j'étais très intrigué, parce qu'il n'y avait rien de traduit de Williams à ce moment-là. Il y avait l'autobiographie qui avait été traduite chez Gallimard. Il y avait eu, je crois, un tout petit volume chez Segers, mais au début des années 60, mais qui était le premier livre de Williams en français. Et puis, il y avait eu des poèmes en revue. J'ai même découvert bien plus tard que, par exemple, un des premiers traducteurs de Williams, c'était Queneau. Queneau a traduit des poèmes de Williams dans la revue... comment elle s'appelait cette revue ? Où il y avait Nabokov dans le comité, Michaud dans le comité de Mesure, ça s'appelait peut-être, oui, la revue Mesure qui était juste avant la guerre. Et ils avaient fait un numéro spécial américain. Bon, bref. Donc, je reviens à mon histoire de Patterson. À Grenoble, à ce moment-là, je tombe un jour dans la grande librairie de Grenoble sur une caisse de Patterson. Enfin, une caisse. Il y avait 10 exemplaires de Patterson, enfin, de l'édition New Directions. Je pense que ça avait dû servir pour un cours à la fac à l'époque. Enfin, bon, c'était des invendus. Ça se vendait 4 francs, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, je prends le moins abîmé du lot et je rentre chez moi et je m'aperçois qu'en fait, je ne suis pas capable de le lire. C'est-à-dire que je n'arrive pas à le lire de manière courante. Et je suis en même temps extrêmement intrigué par le dispositif du texte, enfin visuellement dispositif. Donc, je commence à traduire ça un peu... Enfin, traduire même pas le mot qui convient, à essayer de me dépatouiller de ce texte. Pour moi. Et puis alors là, c'est les hasards de l'existence. J'apprends par une tierce personne que Bernard Noël, que je ne connaissais pas à l'époque, venait d'acheter les droits du livre pour Flammarion, parce qu'il travaillait chez Flammarion à l'époque. Et donc je lui ai écrit à Bernard en disant voilà, j'ai commencé une traduction de Patterson. Il me répond, bon, je lui envoie le début dans une version encore plus hasardeuse parce que c'était mon premier. Et puis bon, de fil en aiguille, on se rencontre et puis voilà, je signe un contrat et je me mets à traduire ce livre. Je dis très honnêtement dans le petit texte que j'ai fait là pour ce dossier que j'avais évidemment pas les compétences académiques pour me lancer dans une pareille aventure. J'étais en plus très isolé à une époque où, comme je viens de dire, les échanges, même au niveau des textes, etc., ça, c'était très compliqué. Je ne pouvais pas récupérer des livres de référence, par exemple, pour essayer de décrypter des choses. Donc j'ai un peu navigué à vue. Bon, il y avait Fauchereau qui était un peu dans le coup aussi et qui avait soutenu ma candidature parce qu'il avait, semble-t-il, perçu qu'il y avait, même avec les défauts ou les défaillances, il y avait quand même un intérêt dans ce travail. Donc quand les premières épreuves ont été faites, parce que c'est allé très vite en fait, si ça avait reposé un petit peu plus, j'aurais peut-être pu à l'époque, parce que ça, le livre est paru en début 81, c'était encore sous Giscard d'Estaing. Alors c'est pour dire que ça date quand même il y a un bon bout de temps. Mais bon, le livre s'est fabriqué finalement très très vite et on a passé un week-end, j'ai passé un week-end chez Fauchereau sur les premières épreuves qui m'a permis de corriger le tir aux endroits où mes défaillances, surtout pour les références strictement américaines ou choses comme ça. Donc le livre est paru, j'avais 25-26 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça, 26 ans, mais je savais que c'était un travail imparfait. J'avais parfaitement conscience que... puis je m'en suis rendu compte très vite, parce qu'à ce moment-là, comme j'étais venu m'installer à Paris dans les mêmes temps, enfin juste avant, j'ai commencé à ce moment-là à explorer beaucoup plus sérieusement tout ce domaine et donc de reprendre et d'avoir des ouvrages de référence aussi que je n'avais pas avant. Et je me suis rendu compte que bon, il y a des choses que j'avais mal comprises ou pas perçues comme il aurait fallu, etc. Donc il était hors de question de republier cette traduction à l'identique, sauf qu'elle a été en librairie pendant une vingtaine d'années. Enfin, peut-être pas une vingtaine d'années, mais une bonne quinzaine d'années, jusqu'à la fin du du siècle, grosso modo. Et le tirage, je crois qu'à l'époque, c'était des tirages faramineux. On avait fait 4000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Et bon, il y en avait eu un peu de déstockage, mais le stock était resté. Et après, je voulais pas le republier. Ils auraient refait un tirage. J'ai dit non, c'est pas possible. Et il se trouve que après, bon, j'ai rencontré Fabienne Raffoz et Bertrand Fillaudeau, qui avait déjà un peu dans la tête de lancer ce qui est devenu une espèce de série américaine.
Et chez Corti.
Je précise chez, oui, chez Corti, voilà, chez Corti. Et donc, je leur ai dit que moi, le livre était épuisé à ce moment-là, que je ferais volontiers une nouvelle version. C'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a rescanné le texte de départ, enfin ma première traduction, et j'ai retravaillé dessus avec le texte anglais au-dessus, et j'ai beaucoup, beaucoup rattrapé. J'ai beaucoup... je ne sais pas si j'ai amélioré, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais en tout cas, il y avait même quelques passages, je ne veux pas non plus exagérer dans ce sens-là, mais il y avait quelques passages où... Je comparais ma version de 81 avec le texte anglais et je me disais, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des trucs, j'arrivais même pas à reconstituer, j'avais dû partir sur des trucs. Bon.
Entre-temps, tu avais traduit d'autres.
Oui, 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 après j'ai traduit, mais j'ai retraduit aussi parce que j'ai traduit Open, par exemple George Open, dans la foulée de ma traduction de Patterson, c'est-à-dire dans la première moitié des années 80. Et là, je m'étais dit, beaucoup plus tard, parce que là, c'était chez Une, on a fait 3 volumes d'Open à ce moment-là. À un moment donné, j'avais eu l'envie de faire toute l'œuvre d'Open, qui n'est pas monumentale, ça fait 320 pages à tout casser. Et à ce moment-là, quand je me suis remis dans ce travail-là, j'ai véritablement retraduit ce que je n'ai pas fait pour Patterson, parce que c'était peut-être un peu trop long aussi. Mais pour Open, j'ai oublié mes anciennes traductions qui avaient peut-être moins de défaillances que celles de Patterson. Et j'ai refait une autre traduction, quitte des fois d'ailleurs à revenir sur la première, enfin à retomber sur la première, parce que bon, on peut pas. Mais j'avais une autre approche de l'œuvre aussi. C'est ça qui est un peu énigmatique, hein, dans ces rapports-là. Voilà. Donc l'histoire de Patterson, ça a été un peu une fatalité. Mais en même temps, ça a joué un rôle finalement inattendu dans mon existence, parce que ça a mis en branle beaucoup de choses. Bon, la poésie américaine, bien sûr. Mais du coup, la traduction est devenue mon métier, ce que j'avais jamais imaginé quand j'étais plus jeune. Donc j'ai traduit, mais sous d'autres noms, une cinquantaine de romans entre-temps.
Alors, voilà, ça, on le découvre dans la section qui était exclusivement consacrée, le cahier sur Yves Dimano. Alors, moi, je l'ai lu en me disant qu'il était difficile d'être plus complet. Comme si aucun sujet important, aucune thématique importante, aucune, je dirais, de tes activités, de tes aspects majeurs de ton travail, aussi bien en tant que poète, traducteur, éditeur, etc., qui n'avait pas vraiment de grosses lacunes. Est-ce que ça t'a semblé ainsi ?
C'est beaucoup plus difficile, évidemment, de juger de la chose quand on est soi-même concerné. Et puis bon, c'est Pierre qui a organisé, voilà, ce dossier. Il m'a...
Je crois que Pierre va nous le dire.
Oui. C'est quand même lui qui, non seulement, est à l'origine. Bon, avec ton accord immédiat, dont je vous sais gré l'un et l'autre... Vraiment, parce que ça m'a beaucoup touché. Moi, je ne m'attendais pas.
Quelque chose d'équivalent.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, ouais. Bon. Mais bon, Pierre, du coup, a pensé un peu à ce diptyque à cause de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait que, évidemment, dans l'affaire Williams, j'avais aussi mêlé mon grain de sel, quoi. Bon. Et puis que Williams reste un de mes auteurs dans les poètes du XXe siècle, un de mes auteurs phares, même encore aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est un poète majeur, toutes langues confondues, enfin, si je puis dire. Mais après, pour le dossier qui m'est consacré, bon, j'ai un peu laissé Pierre piloter l'appareil. Il m'a demandé mon avis de temps en temps, mais c'est tout.
Mais Pierre, je crois que vous avez eu sinon un souci d'exhaustivité, c'est pas l'objet d'une revue, mais en tout cas, d'ouvrir une focale assez large, sans laisser dans l'ombre, disons, des pans importants.
Ouais, contrairement à Williams, pour lequel en France, il n'y a pas énormément de spécialistes, et du coup, j'ai croisé des perspectives, mais un peu de manière empirique, disons. Avec le dossier qui concerne l'œuvre d'Yves, au contraire, je suis parti vraiment dans une démarche descendante, a priori. C'est-à-dire que je me suis d'abord fait un plan sur les objets dont j'aimerais qu'on parle, la marqueterie dont il s'agirait de rendre compte. Et ensuite j'ai essayé de trouver les personnes qui seraient capables. Et donc, du coup, j'ai passé des commandes. J'ai dit... est-ce que vous seriez d'accord pour alors des commandes plus ou moins larges, plus ou moins concentrées thématiquement, mais parfois quand même assez précises. En gros, des commandes génériques, c'est-à-dire est-ce que vous seriez d'accord pour écrire sur sa poésie, sur sa critique, sur ses romans, sur et du
mes
coup.
Mes romans, il y en a que un.
Oui, sur ta prose. Et comme tu as l'avantage d'être vivant et quand même bien entouré par des gens qui te lisent et qui connaissent ton œuvre, ça a été assez facile d'organiser ce...
Et puis vous avez trouvé, il est là, Christian Rosset, ouais. Un témoin des jeunes années.
Exactement.
Et c'est assez extraordinaire.
Pour ressortir les vieux dossiers.
Tout ce qu'il raconte est passionnant et je l'ignorais complètement. Quoi. Donc on va découvrir là...
Oui, il y a aussi de l'inattendu, parce qu'il y a une face publique de ton travail, qui est l'édition, la critique, et puis il y a aussi toutes les années de formation et une phase aussi publique quand tu faisais de la critique de BD et tout ça, mais qui est...
Oui, bah ça, c'est... Oui, même moi, je les ai oubliés, je les ai plus.
En tout cas, les gens le savent pas forcément, et c'est vrai qu'il y a plusieurs articles qui tracent comme ça des coupes. Il y a l'article d'Oxmery aussi sur le Cambodge. Et donc, il y a à la fois une approche par genre et puis des approches transversales qui fait que l'œuvre est quand même bien quadrillée, me semble-t-il.
Je suis très mal placé pour en juger. Mais bon, moi, j'étais très touché, évidemment. Je trouve effectivement... D'abord, je trouve que les textes sont de qualité. Il me semble, même indépendamment du fait qu'ils me concernent, mais je veux dire, ce sont des textes que j'ai trouvés, enfin moi, qui m'ont beaucoup plu. J'avais pas du tout, enfin à l'exception de deux collaborateurs qui m'avaient envoyé leur texte avant, mais on s'était mis d'accord avec Pierre pour que je découvre ça, en fait, sur les épreuves. Je t'avais demandé quand même de m'envoyer les épreuves complètes pour... Mais donc, du coup, parce que je voulais pas, c'était...
Absolument pas intervenu.
Non, je suis absolument pas intervenu, mais enfin, j'espère ne pas avoir été... Je crois que ma seule intervention a consisté à suggérer le... Avec Julia Pont, oui, qui était... parce que je connais, sans la connaître, cette jeune femme qui a fait sa thèse sur la réception de Reverdy chez les poètes françaises. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et on s'est rencontrés à l'époque, il y a déjà plusieurs années. Et puis on a donc du coup échangé quelques trucs. Je l'avais trouvée vraiment très, très fine. Et il se trouve qu'elle a fait entre-temps, toujours d'ailleurs à l'initiative de Pierre, un entretien avec Isabelle Yaron, qui est là aussi, pour un numéro de la revue Poésie. Et j'avais trouvé cet entretien très passionnant, enfin bon, très bien mené, perçu des deux côtés d'ailleurs. Et donc j'avais proposé à Pierre que ça soit elle qui fasse l'entretien, puisqu'il fallait un entretien. Que ça soit elle qui fasse l'entretien. Donc c'est un entretien qui s'est fait par écrit. Hein. C'est pas un...
Pour sourire un peu, j'ai été extrêmement impressionné dans le récit, le témoignage de Christian Rosset, qu'il garde tous ses agendas. Oui. Et qui parle de choses déjà vraiment lointaines, dont tu ne te souvenais toi peut-être plus. Et lui, il a la date, il peut donner la date. C'était assez étonnant.
Oui, oui. Ben, je me souviens de, pour rebondir là-dessus, je me souviens de la rencontre avec Christian, effectivement, puisque c'était, mais je me souvenais pas forcément de tous les détails. Et puis, il recite des propos enregistrés ce jour-là, puisque on s'est rencontrés pour une émission de radio, il y a plus de 30 ans de ça maintenant. Et, sur France Culture, évidemment. Et, donc je me souvenais de ça, mais cette émission, je l'ai entendue à l'époque. Je crois même que Christian m'avait donné une cassette que évidemment on ne peut plus écouter depuis Belle Époque. Je sais même pas si j'ai.
Bon, en tout cas, voilà, un mémorialiste voilà.
Et
fiable.
Donc, je me souvenais plus du début de la conversation. Je me rappelle de cette journée, par contre. Mais bon. Hein.
Bien, bah c'est aussi les choses qui contribuent à faire de ce cahier Yves Dimano un ensemble extrêmement vivant de par sa diversité et puis de par les thèmes différents et les angles d'approche aussi différents. Moi, j'ai appris énormément de choses en le lisant, y compris par exemple sur ta relation, un point que vous avez en commun avec Auxemery, sur la relation au Cambodge.
Bah oui, mais ça, c'est ma vie.
Voilà.
Enfin, c'est l'histoire de ma vie qu'on a essayé de pas raconter quand même. Enfin, parce que j'ai.
Non, mais c'est ce qui passe dans l'œuvre aussi.
Mais oui, mais c'est vrai que Auxemery était sûrement le seul qui pouvait parler de ça parce qu'on se connaît depuis très 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 longtemps. Enfin, depuis le début des années 80. Enfin, depuis que je suis venu à Paris, on s'est rencontrés dans la librairie anglo-américaine où j'ai travaillé quelques années à ce moment-là. Et bon, on est devenus amis, etc. Donc, il a connu ma vie, il a connu donc ma première vie et toute cette histoire liée au Cambodge. Et puis, c'est vrai qu'il est même, venu une année au Cambodge à une époque où on y était. C'était l'époque où on y séjournait. Assez, parce que pendant très longtemps, ce n'était pas possible, évidemment, d'y
mais
aller.
Je trouve que le partage, disons, d'une expérience à peu près commune, ou en tout cas similaire,
oui,
donne une intensité à sa réflexion, plus proprement poétique.
Mais c'est là où moi, je suis très mal placé, surtout pour le texte d'Auxemery, parce qu'on se connaît tellement que c'est comme quand on lit des choses... comme ça, moi j'ai pas ce recul-là. Enfin, c'est-à-dire, si ça peut éclairer, tant mieux.
Et Pierre, comment est-ce que vous l'avez reçu, ça, par exemple, cette approche d'Auxemery?
Moi, j'ai trouvé ça aussi passionnant parce que le rapport au Cambodge d'Yves, moi, je le connaissais essentiellement par les livres, par La Montagne Rituelle et Cambodja. Qui sont donc La Montagne Rituelle, qui est un roman, Cambodja, qui est un livre de poèmes écrit à partir des stèles.
Oui, de l'épigraphie. De l'épigraphie.
Donc, c'est des livres qui datent tous les deux des années 90, années 90.
Le Cambodja, le poème est antérieur. À l'époque où j'ai fait Cambodja, j'étais jamais allé au Cambodge. Je vivais au Cambodge dans ma tête, mais j'avais jamais mis les pieds là-bas parce qu'on pouvait pas y aller, tout simplement. Enfin, en tout cas, jusqu'au début des années 90, c'était pas possible. On a commencé à pouvoir y aller à ce moment-là. Surtout que mon ex-femme était réfugiée, donc c'était encore, elle était réfugiée après, elle a pris la nationalité, mais enfin c'était impossible de toute façon avant. Donc quand j'ai fait Cambodja, j'étais dans l'ignorance de la réalité concrète du pays. Et par contre, La Montagne Rituelle a été écrite après plusieurs séjours assez long, et surtout à la suite des tout premiers séjours au début des années 90, où le pays était encore dans un état... le pays était vraiment complètement détruit, quoi. Et il y avait même encore des quantités de régions frontalières en particulier, mais même pas uniquement frontalières, où on ne pouvait pas aller parce qu'il y avait trop d'insécurité, etc. Et voilà, donc le Cambodge a été... par la force des choses, au centre de mon monde à moi. J'ai souvent dit par la suite, parce qu'après, depuis 25 ans, c'est plus le cas. Ma vie a changé, donc je suis plus du tout au Cambodge, ni dans ma tête, ni nulle part d'ailleurs. Pendant un long moment, ça a été un pays, je vivais davantage dans ce pays où j'avais jamais été, que dans le pays où j'étais. Voilà. Donc, il y a effectivement ces deux livres qui sont entièrement, chacun d'une façon très, très différente, consacrés à ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de présence du Cambodge, en particulier dans tous les poèmes de l'époque où j'étais le plus dans l'écriture de poésie, c'est dans les années 80, ça revient périodiquement comme ça. Voilà, donc c'est vrai que c'était bien que ça soit, mis en avant, quoi.
Et puis Paroxymerie, qui a une démarche un peu, je sais pas, comment on peut dire, un peu nietzschéenne, de à la fois, centrée sur la manière dont l'œuvre répond à des trucs vitaux, quoi, et donc par rapport à d'autres articles qui sont plus, disons, poéticiens, ça insufflait aussi un autre genre de voix, quoi.
C'est ce que j'aime que nous fassions dans cette revue.
Oui, mais c'est vrai que c'est...
Que ça forme une mosaïque où ces différentes approches finalement se complètent et permettent, je crois, de maintenir l'attention de lecteurs divers qui, à chaque fois, vont trouver une passerelle d'un registre à l'autre. Si on était dans un unique registre, ça ne serait pas tout à fait le même type de revue.
Là, je voulais juste ajouter par rapport à ça que dans le même registre, il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant dans le cahier qui t'est consacré. C'est le travail d'Isabelle sur ton œuvre éditoriale, qui est quelque chose d'assez rare dans les cahiers d'Europe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs dont l'œuvre éditoriale en tant que telle. Est l'objet d'articles.
Il y a pu y avoir sur quelques auteurs, je ne sais pas, fin 19e ou début 20e, qui ont eu aussi une activité libraire ou éditoriale des articles, mais sur des contemporains, son cas est quand même
C'est le problème, c'est que j'ai fait trop de choses.
C'est pour ça que c'est un gros dossier.
mais c'est vrai que j'aime beaucoup le texte d'Isabelle parce que il est à la fois habile et tout à fait au cœur du sujet. C'est-à-dire que ce travail éditorial, si je peux m'autoriser à parler de moi-même un peu comme ça, ce travail éditorial, il fait partie de mon travail d'écriture. Je l'ai toujours vécu, en tout cas, ou en tout cas pensé comme ça. C'est-à-dire que c'est une forme de critique indirecte, si on peut dire. Ça prolongeait, en tout cas, le travail critique que j'avais commencé de faire un peu tardivement, d'ailleurs, dans ma vie, parce que pendant de longues années, j'ai pas écrit. J'étais à l'écart beaucoup du monde de la poésie et j'intervenais pas, j'écrivais pas, je participais pas au débat. Il a fallu attendre quasiment les années 90 pour que je commence à écrire des textes. Et du coup, quand cette collection m'est tombée dans les mains, je sais pas encore très bien comment, c'était dans mon esprit une façon de poursuivre la réflexion critique, mais par l'exemple, c'est-à-dire en mettant en avant, en lumière, des œuvres très variées, j'espère, enfin pas du tout dans une seule direction, mais des œuvres qui travaillaient à la construction d'un poème, comme j'avais essayé de faire dans mes propres poèmes à moi avant, en essayant des pistes diverses pour essayer d'attaquer la chose. Voilà. Et
puis, il y a aussi un texte qui aborde à la fois, disons, ton rapport à la poésie américaine, ton activité de traducteur, Stéphane Baquet, la traversée traductive, ce qui reste du Nouveau Monde. Donc c'est encore une pièce supplémentaire mosaïque.
Je me suis rendu compte en lisant ces textes-là, que ce soit celui d'Isabelle ou celui de Stéphane Baquet, qui est effectivement... que j'ai trouvé très pertinent, c'est-à-dire que par le simple fait que ça soit la traduction ou l'édition, le travail d'édition autour de cette collection, ne sont pas dissociés de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire que c'est une dimension. Je ne sais pas pourquoi les choses se sont passées comme ça. Il y a une part de chance. Je parlais tout à l'heure d'espèce de hasard qui m'a mis dans la traduction. Pour l'édition de poésie, c'est pareil. J'ai jamais pensé ou rêvé avant ça de m'occuper d'édition de poésie. Il se trouve que c'est arrivé. Ça s'est présenté comme ça. Et du coup, je me suis dit, oui, il faut le faire parce que ça permet de poursuivre le travail autrement, sous un autre angle, là encore.
L'écriture par d'autres moyens.
Oui, oui, oui. L'écriture par d'autres aussi, pas seulement moyen, mais par d'autres. C'est quelque chose. Je pense que j'ai toujours eu l'idée quand même de. Enfin, l'idée, je ne sais pas si c'est une idée, mais le mouvement ou la tension intérieure de m'éloigner de moi-même, si je puis dire. Donc, dans l'écriture, à un moment donné, ça, pendant un certain nombre d'années, ça marche. Et puis, à un moment donné, ça marche moins bien. Donc, poursuivre le travail autrement, de cette façon-là, laisser parler les autres, mais tout en sachant que c'est presque comme si... il parlait à notre place, quoi. Vous voyez, c'est, enfin, ça me plaît bien. Les livres que j'ai publiés, enfin, plus exactement accueillis dans cette collection, c'est des livres qui font écho. Je dis pas que je les aurais écrits moi, évidemment non, mais ils participent d'un rêve d'écriture d'une certaine façon que les autres font à ma place, quoi. Donc ça, c'est très bien.
Est-ce que une question peut-être un peu plus personnelle, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Est-ce qu'en tant que traducteur ou éditeur, je dirais, tu auras des regrets de choses que tu aurais tenu à faire et que tu n'as pas pu faire ?
Pour la traduction, non, parce que pour la traduction, c'est pas des choses que je n'ai pas pu faire, c'est des choses que des œuvres, par exemple, que j'aurais voulu traduire au début où j'étais dans ce mouvement de traduction. Où j'avais eu l'idée, par exemple, j'aurais voulu traduire Spring and Old, à l'époque où c'était pas traduit. Et je voulais traduire aussi Spicer, par exemple, qui était traduit.
Enfin, Duncan, tu m'avais dit aussi.
Oui, Duncan qui mériterait toujours d'être une approche. Enfin, il y a eu l'ouverture du chant qui a été traduite, mais c'est une œuvre colossale. Il y aurait encore des choses à faire. Mais si je l'ai pas fait, c'est pas que je n'ai pas pu le faire, c'est que finalement j'ai renoncé à le faire, en tout cas provisoirement. Parce qu'il y a que Open finalement qui est resté un projet. Pour l'édition, c'est plus compliqué parce que. Des regrets, non. On m'a jamais empêché de publier un livre que j'aurais voulu publier. Tous les livres que j'ai publiés, ils ont été. Enfin, j'étais en fait seul maître à bord de cette collection, ce qui était un privilège faramineux, assez rare finalement d'une certaine façon. Mais la contrepartie, c'est que j'étais pas payé quasiment pour faire ce travail. Enfin, que j'étais très peu payé, plus exactement. Mais par contre, j'avais une liberté de manœuvre de la même façon qu'on m'a jamais obligé, chez Flammarion, à publier dans la collection un livre que j'aurais pas voulu publier. Enfin, on m'a d'ailleurs jamais proposé quoi que ce soit. C'est moins bon. Mais après, il peut y avoir des regrets de se dire, oui, peut-être à ce moment-là, j'aurais pu publier X, Y ou Z, dont les manuscrits étaient passés dans mes mains.
Oui, je pense aussi à une collection dans laquelle, qui n'est pas la collection de poésie, strictement parlé, mais dans laquelle tu as rassemblé des œuvres, comme celle de Reverdy, je crois que c'est la collection 1000 pages.
1001 pages.
Oui. 1001 pages. Ouais. Donc, est-ce que, par exemple, dans cette collection-là, tu aurais eu d'autres souhaits ?
Oui, j'avais un projet. Mais ça, j'étais pas responsable de cette collection. Cette collection était une collection qui, d'ailleurs, n'a pas eu une très grande longévité chez Flammarion, qui recueillait essentiellement des œuvres en prose. D'auteurs de la maison.
Quand même, on a eu la chance d'avoir de nouveau accès à Reverdy.
Oui, voilà.
Donc beaucoup de livres étaient absolument introuvables.
J'en suis responsable. En effet, c'est moi.
Non, mais il y avait urgence parce que beaucoup de ces livres ne se trouvaient plus du tout.
Oui, mais c'est là aussi, c'est des concours de circonstances parce que Flammarion avait mis en route une première édition des œuvres complètes dans les années 60-70, qui s'était un peu enlisée, qui n'a d'ailleurs jamais été complète parce que les deux titres du Mercure n'y étaient pas. Et Dieu sait, surtout main d'œuvre, que des livres importants. Mais à un moment donné, le comité Reverdy faisait un peu du pressing auprès de la direction Flammarion. Ça, c'était à la fin du siècle dernier, au début de celui-ci, pour savoir qu'est-ce qui convenait de faire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les directions chez Flammarion ont changé. Et On m'a fait suivre le courrier du comité.
Du comité.
J'ai été voir le patron, qui était Gilles Aéry, qui n'est plus dans la maison maintenant, mais qui est resté chez Flammarion, et qui n'était pas le grand patron à ce moment-là, mais qui avait déjà, il devait être directeur général. Et j'ai dit, voilà, bon, c'est sûr qu'il faut faire ça. Donc, ça n'a pas posé l'ombre d'un problème à partir du moment où la machine s'est lancée. Donc, évidemment, c'est Étienne Alain Hubert qui s'en est chargé, comme il avait déjà précédé les trucs. Mais on a fait ça ensemble. C'est moi qui étais le responsable éditorial de ce projet. Alors, dans la foulée de ça, il y a eu effectivement, d'une part, des poésies de Tsara, mais ça, c'est pas moi qui m'en suis occupé, parce qu'il y avait eu les œuvres complètes de Tsara déjà chez Flammarion aussi avant. Donc, et puis, là, j'ai pu, à un moment donné, c'était une période un peu plus faste pour la maison. Gilles Aéry qui m'avait dit, bon, moi, je serais pas contre que de temps en temps, vous vous occupiez d'un volume comme ça, tous les 2 ans. Alors, immédiatement, à peine la porte entrouverte, je glisse mon pied et je dis, ben voilà, s'il y a quelqu'un qui mérite un rassemblement, qui a publié 15 livres dans la maison, c'est Mathieu Bénézet. Bon, alors j'ai bien vu que ça déchaînait pas un enthousiasme absolument délirant, mais
ça s'est fait.
Ça s'est fait. Et c'est vrai que j'avais à ce moment-là l'idée d'en faire au moins 2 autres. Mais le livre de Mathieu, c'est Dont on peut luire aussi, qui nous a quittés malheureusement en ce début d'année. Mais j'avais un peu le... Mais les ventes du Bénézet ont été tellement mauvaises, enfin la réception pas très satisfaisante, que bon, on a dû renoncer à poursuivre l'aventure. Mais là, c'était pas quelque chose dont j'étais directement responsable. Puis c'était un projet évidemment plus volumineux. Par contre, on a pu faire quelques années plus tard avec Isabelle cette grosse anthologie qui a fait plaisir à peu de gens, mais bon, qui a au moins le mérite d'avoir été fait, qui n'est pas sans défaut, loin de là, mais que je suis bien content qu'on ait quand même pu faire, parce que même sur un plan strictement personnel, c'était aussi une façon de marquer quelque chose. Là encore, à travers le travail des autres. Et là, par contre, ça a marché. Ça a marché pour la simple et bonne raison. C'est d'ailleurs pour ça que Flammarion avait tout de suite donné son accord. C'est que ça n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas un livre comme ça. Et je savais très bien, parce que très souvent, tu as dû être confronté aussi à ça. Les gens demandent, mais comment on fait quand on n'y connaît rien? Comment on fait pour commencer, etc. Et on n'avait rien à donner aux gens. Donc voilà, on a fait cette grosse chose qui n'est pas qu'une anthologie. En plus, ça, c'était aussi le projet que ça soit aussi accompagné d'un récit, si on peut appeler ça comme ça, enfin d'éléments de réflexion à tout le moins, puis de présentation un peu détaillée des auteurs.
Et Éluard disait, la meilleure anthologie est celle que l'on fait pour soi.
Oui, absolument.
Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
Oui, moi, assez d'accord. D'ailleurs, je pense que les bonnes anthologies sont des anthologies vraiment subjectives, c'est-à-dire où il y a un choix marqué. Là, pour cette anthologie précisément, on était un peu... Enfin, disons, on n'a pas fait exactement l'anthologie totalement subjective qu'on aurait pu faire. Mais ce n'était pas le but non plus. D'abord, on était 2, ce qui permettait aussi de diversifier un peu les points de vue. Et puis, on s'était quand même engagé auprès de la direction à proposer un tableau général. C'est-à-dire une sorte de toile de fond du paysage sur lesquels les œuvres venaient se placer comme ça. Mais évidemment, on a privilégié ce qui nous paraissait le plus important dans l'optique qui était celle du livre, qui était de montrer le renouvellement de la poésie française sur ce demi-siècle. Voilà.
En même temps, il y a toujours une sorte de risque avec les anthologies. Je crois qu'il y a rarement des choses qui vieillissent aussi vite. Vite. En tout cas, à 30, 40, 50 ans de distance.
Bien sûr. Je me suis racheté il y a une dizaine d'années une anthologie qui a été faite au début du XXe siècle, en 3 volumes. Tu dois la connaître, je ne me souviens plus qui l'a faite. Bon, alors évidemment, il y a énormément de monde. Enfin, il doit y avoir 300 auteurs ou quelque chose comme ça. Et tous les grands noms y sont, mais un peu perdus au milieu de ça. Et les 9 dixièmes des gens, on sait, même leur nom ne nous dit rien.
Quand on voit l'anthologie de Gide...
Oui, oui, voilà. En plus. Non, mais bon, bref. Une anthologie n'est pas forcément...
C'est à la fois nécessaire et il faut savoir que c'est une denrée...
C'est pas forcément fait pour durer non plus. Voilà. Là, c'était plutôt ponctuel. En tout cas, bon, elle a circulé. Elle n'est pas si vieille puisqu'elle n'a même pas encore 10 ans. Mais par contre, elle s'épuise. Enfin, elle a été réimprimée une première fois la première année, très vite, parce que ça, brusquement, ça s'est mis à marcher. Et puis bon, bah après, petit à petit, ça s'est calmé, mais visiblement, elle sera bientôt épuisée. Donc, dépêchez-vous.
Bon, il nous reste quand même à tenir une promesse, c'est que tu lises quelque chose.
Ah, il faut que je lise quelque chose.
Si tu veux bien.
Oui, oui, je le dis. Bon, alors, je précise. Il faut que je parle dans mon micro. Je précise ce que je dis d'ailleurs dans l'entretien dans le numéro d'Europe, que j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup occupé de poésie pendant une période de ma vie, mais que la poésie m'a un peu... mon écriture de poésie, plus exactement, m'a un peu lentement délaissé comme ça, et que donc j'ai pas des choses... très très récente. Il y a quelque temps, j'ai rassemblé ces poèmes de la fin, enfin de la dernière partie de ce travail, mais ce sont déjà des poèmes anciens. Enfin, ils sont pas très très récents. Donc
c'est dans La Vie.
Voilà, La Vie. Donc je vais vous en lire un pas long, un hommage à Spicer. Voilà. Hop, il est voilà. Je vais peut-être boire un peu d'eau avant.
Oui. Tu nous dis peut-être un mot de la couverture de l'image, parce que là, pour le coup, c'est toi qui l'as choisi.
C'est une photo de Muriel Claude, qui est dans la salle aussi. Voilà, c'est une photo. C'est une vieille photo. C'est pas une photo qui a été faite spécialement pour le livre.
Bien sûr.
Elle reprend un matériel qui est déjà assez ancien, photo fait à partir d'un vieux film Super 8. Voilà. Donc, je trouvais que ça allait bien. Enfin, cette image-là, précisément, avec un enfant qui passe. Et c'est flou. Donc ça me plaisait bien aussi. Alors, hommage à Spicer. Il s'agit de Jack Spicer, le poète américain. Enfin, on ne parle pas tellement de lui, mais enfin, c'est un hommage. Je vois souvent la nuit s'étendre aux dépens d'une autre grammaire, tomber les armes à la main, fourbir, parfaire les outils que m'avait transmis la tradition, les ombres de mes pères. Je ne crois plus qu'il soit question de cet oubli qu'il convoquait, et moins encore tant de se taire. Je me penche aux fenêtres, j'aperçois les hommes et les femmes qui se jettent en face du haut de leur balcon, leur chant m'apaise qui s'élève autour des corps lentement dissipés dans les flammes. Puis les lumières s'éteignent au sommet des immeubles et se rallument à l'aube dans la brume, trouant les ténèbres confuses des villes et des plaines, les forêts mitoyennes. Ils ont tracé dans le ciment le nom de tous les morts, dessiné leurs visages sur la buée des vitres lézardées le long des entrepôts déserts, planté leurs couteaux dans le bois des portes, jeté dans les brasiers leur linge tuméfié. Je ne vois plus le ciel danser ni la pénombre sur les corps apprêtés pour le bûcher. Traversant la ville à l'aube que les hommes ont désertée, comment se souvenir des premiers incendies, de l'enfant poignardé que sa mère délivrait par son geste. Il n'est plus l'heure, non, il n'est plus temps. Chicago dort où je ne suis jamais allé, dont les immeubles sont en ruine et Vancouver désaffecté. Le poète a tout emprunté, terreau, pelle, gravier, et jusqu'à son vocabulaire. Puis il a saisi l'épée, un jouet surgi du passé, et traversé les terres en chantant, les étangs d'est en ouest, arrachant par poignées de ses poches les pages déchirées des cahiers qu'il jetait en riant vers le ciel. Je marche, il a marché, sur le sol et sur l'eau, jonclé avec des torches, des assiettes, connu des hommes qui fuyaient comme lui l'Indiana, l'Oregon, l'Idaho, plus nombreux d'être seuls, serrant contre son cœur la corde où doucement son corps un jour, proche ou lointain, devait se balancer.
Voilà. Merci beaucoup Yves. Est-ce que je peux peut-être te demander encore ce qui t'avait conduit à l'écriture de ce poème?
Oh, je m'en souviens plus du tout.
Mais non, mais tu avais, disons quand même, un hommage à Jack Spicer.
C'est une commande, ce poème.
Ah bon?
C'est pas une commande, c'est-à-dire on m'a pas commandé ce poème, on m'a commandé un poème. C'était la revue Roho.
Oui.
Et c'était l'époque où je n'écrivais plus de poésie. Et puis je me suis dit quand même, on me demande et tout, je vais voir si et j'ai. Le point de départ, c'était de reprendre l'idée de... Spicer a écrit un livre dont une section est un hommage à Creeley, au poète Robert Creeley. Une séquence que j'aime particulièrement. Et je me suis dit, je vais faire un hommage à Spicer, du coup. Mais après, bon...
Oui, bien sûr.
Après, voilà. J'ai réussi à le faire quand même à l'époque. C'était méritoire.
Bon, merci infiniment. Merci infiniment d'être venu si nombreux. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, si certains sont intéressés par la revue, il y en a quelques exemplaires. Et sinon, avec mes remerciements renouvelés, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et à bientôt.